Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Valérie Gass.
En partie de Mardi politique, nous accueillons Robert Rochefort, député européen et vice-président du Mouvement démocrate. Bonsoir Robert Rochefort.
Bonsoir.
Toujours à mes côtés pour vous interroger, Bernard Pellegrin de l'AFP et Jonathan Boucher-Petersen de Libération. Alors Robert Rochefort, dans la première partie de Mardi politique, nous avions François de Rugy comme invité et nous avons abordé avec lui forcément les affaires qui tournent autour de Nicolas Sarkozy, les enregistrements de ses conversations par son conseiller Patrick Buisson et puis les écoutes téléphoniques dont il a été l'objet. Et bien sûr, nous avons envie de savoir. Vous avez été surpris, Robert Rochefort, par cette succession de révélations concernant l'ancien président ?
Oh, je ne m'y attendais pas. Pour être honnête avec vous, je trouve que tout cela est repoussant. Je trouve que j'essaye de me mettre à la place des électeurs qui entendent ces informations, ce feuilleton, puisqu'en fait c'est bien un feuilleton dont il s'agit. Chaque jour, des choses nouvelles. Même ce soir, on nous annonce que le canard enchaîné va dire que les ministres étaient au courant. Je me dis vraiment qu'on ne réconciliera pas les Français avec la politique en procédant ainsi. Je me dis aussi d'ailleurs qu'on a un peu perdu le sens de la mesure de tous les côtés. Peut-être faut-il des écoutes téléphoniques, mais faut-il des écoutes téléphoniques aussi longues ? Faut-il envoyer comme ça des sortes de filets en se disant on verra bien le poisson qu'on va récupérer ? On a un motif et puis en fait on récupère des informations sur un autre motif. Ensuite, tout cela doit-il être sur la place publique ? Enfin, j'avoue que je ne comprends pas bien.
Alors il y a beaucoup de questions qui ont été posées, et puis dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on a dénoncé un peu un complot contre l'ancien président, et Jean-Marc Ayrault, tout à l'heure, a démenti, a un peu voulu recadrer le débat. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Ayrault, micro d'Anissa El Jabri.
Il faut que vous vous habituiez, et il faut que la droite française s'habitue, à ce que la justice fonctionne en toute indépendance. Les mœurs du passé, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a aucune instruction ne donnée par l'exécutif, la garde des Sceaux, aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils enquêtent. Personne n'est au-dessus des lois. Et donc c'est comme ça qu'une démocratie, un état de droit fonctionne. Le reste, c'est de la polémique, le reste, c'est de l'instrumentalisation. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme du temps de M. Sarkozy. Voilà, c'est ça qui a changé et qui a l'air de dérouter.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marc Ayrault ? Ce n'est plus comme avant, comme sous Nicolas Sarkozy. Comme vous le disiez, le canard enchaîné dit que malgré tout, Manuel Valls et Christiane Taubira étaient au courant de ces écoutes.
Non, je ne crois pas que ce soit différent d'avant. Et je crois que le Premier ministre, en prononçant les phrases qu'il vient de prononcer, fait celui qui dit « je ne vais pas alimenter la polémique politicienne » et en fait, il alimente la politique politicienne. Ceci est vraiment... incroyable, ceci est insupportable. Il est clair qu'alors que nous sommes à quelques semaines des élections, je pense que les seuls gagnants de cette polémique et de ce grand déballage, c'est effectivement tous ceux qui sont très sceptiques aujourd'hui sur la démocratie, tous les populistes et évidemment Madame Le Pen.
Bernard Pellegrin.
Mais malgré tout, ce qui n'est quand même pas utile dans une démocratie, de savoir, un, qu'on place un ancien président de la République sur écoute, et que deux... on découvre en l'écoutant qu'il y a peut-être une possibilité de trafic d'influence pour une démocratie quand même importante et pour une opinion publique, c'est quand même important de savoir ça.
Oui,
c'est pas que de l'agitation.
Je vous mets au défi, si nous écoutions aujourd'hui tous les ministres en exercice, je vous mets au défi de les entendre, alors qu'ils ne sauraient pas évidemment qu'ils sont écoutés, je vous mets au défi de ne pas trouver pour chacun d'entre eux des expressions à l'emporte-pièce, des ras-le-bol, des choses de cette nature qui pourraient, sorties de leur contexte, donner le sentiment que finalement il n'y a plus de sens de la mesure et que tout le monde croit qu'il a tous les droits. Donc c'est cela qui est en cause, c'est que vous lisez dans un journal... pas d'abord essentiellement le vôtre, enfin, mais vous lisez les votes plutôt. Mais vous lisez dans des journaux des choses qui n'ont pas à être dans les journaux. C'est ça que je veux indiquer. Par ailleurs, je dois dire que, puisqu'il faut aussi en parler, je n'ai pas été, vous le savez, avec François Bayrou, nous n'avons pas beaucoup apprécié l'influence de Patrick Buisson sur Nicolas Sarkozy. Ça a d'ailleurs été un des éléments de notre grande divergence avec Nicolas Sarkozy au cours de la dernière élection présidentielle. Mais enfin, M. Buisson était censé avoir une fonction politique auprès de M. Sarkozy, celle finalement d'amarrer une partie de l'électorat qui aurait pu être tenté par Marine Le Pen. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'effet boomerang est quand même tout à fait spectaculaire et que maintenant, on assiste à quelque chose qui est beaucoup plus au contraire de la publicité et une façon de travailler pour Marine Le Pen. Et c'est cela qui doit évidemment cesser. Par ailleurs, sur le fond, et puisqu'il s'agit maintenant de savoir comment nous reconstruisons sur ce champ de ruines, il est fondamental que la politique se fasse autrement. Il est fondamental que on réconcilie les Français avec un exercice différent de la politique. Et moi, j'appelle tant au sein de la droite démocratique et républicaine que au sein de la gauche également raisonnable et sensée, et au sein de la famille centriste à laquelle j'appartiens, j'appelle à ce que, comment dire, on change ses mœurs, que ses mœurs politiques soient définitivement derrière nous.
Jonathan Boucher-Peterson.
Non, mais pour rien vous cacher, moi je suis assez éberlué en fait par ce que je vous entends dire depuis tout à l'heure, parce que en gros on entend le son de Jean-Marc Ayrault qui affirme que les choses ont changé. Vous affirmez, je vous cite, hein, je ne crois pas que ce soit différent d'avant. Je ne crois pas, donc c'est une première conjecture. Deuxième conjecture. N'importe quel ministre, n'importe quel responsable politique qu'on entendrait se prêterait au moins par oral à ce que les juges, jusqu'à preuve du contraire, qualifient de soupçon de trafic d'influence. Je rappelle que le trafic d'influence...
J'ai pas dit exactement cela.
Hein. Vous avez dit que si n'importe quel... On prendrait le téléphone à n'importe quel ministre, on trouverait un moment d'agacement dans lequel il formulerait des éléments similaires
si
à ceux qu'on prête
son contexte,
à Nicolas
oui,
Sarkozy.
C'est ce que j'ai dit.
Je suis un petit peu étonné. Et en même temps, vous appelez à... Enfin, je trouve qu'il y a un discours sur la justice qui est étonnant parce que vous appelez à réconcilier les Français avec leur justice, à retrouver une façon plus apaisée d'apporter les choses. Et en même temps, moi, ce que je retiens de votre discours là, c'est plutôt du soupçon face à la justice et du soupçon face à un pouvoir qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore été pris en faute. Oui. Donc j'ai du mal à comprendre la cohérence entre le vœu pieux et le commentaire.
Oui, oui. Ce que je dis, c'est qu'en tout état de cause, si effectivement de la police judiciaire fait des écoutes et transmet ses données à des juges, je ne vois pas par quel processus ceci se retrouve dans la presse et à l'écoute et à la disposition du grand public.
On n'a pas les écoutes.
Elles
ne sont nulle part, M. Rochefort. Soyons précis.
Ceci me pose un problème. Tout ceci se retrouve dans les journaux du matin jusqu'au soir. Je pense aussi d'ailleurs qu'il y a une réflexion éthique à mener du point de vue de la presse, même si ce n'est pas d'abord elle qui est évidemment en cause. On est complètement d'accord. Je vous dis simplement que ceci ne fait pas avancer la démocratie. Bien entendu, il faut que Nicolas Sarkozy, comme n'importe quel citoyen, soit susceptible de répondre aux juges de ce que les juges ont envie de savoir. Mais vous savez comme moi que la façon d'écouter son avocat, de le faire sur très très longue durée, je dis simplement la chose suivante, je me demande si la proportionnalité est encore appliquée. Je me demande s'il y a le sens de la mesure. Or, en matière de justice, comme dans tous les domaines, ce qui compte, c'est le sens de la mesure et la proportionnalité. Nicolas Sarkozy n'est tout de même pas le premier terroriste susceptible d'être.
Mais c'est proportionnalité à l'aune du statut d'ex-chef de l'État ou proportionnalité à l'égard des faits? Parce que les faits, je finis juste ma phrase. Ni vous, ni moi, nous les connaissons. Vous affirmez que les écoutes sont à longueur de journée dans tous les journaux. Les écoutes qui concernent spécifiquement celles entre M. Herzog et M. Sarkozy ne sont nulle part. Si vous les avez, on les publie sûrement demain et on discutera après des conséquences.
Je vois bien que vous avez envie de les publier.
Non, mais je trouve ça très bizarre. Vous affirmez qu'elles sont partout, elles ne sont nulle part. Donc soyons précis au moins.
Non, écoutez, en tout état de cause, je vous dis que tout ceci pose la question d'une refondation de la démocratie. Nous ne serons pas...
Vaste programme.
Mais, oui, mais c'est ça la vraie question.
Mais moi,
Bernard Pellegrin,
ce qui m'interpelle dans votre réponse, et ne le prenez pas mal, mais c'est votre discours sur la presse. Parce que d'ailleurs, je me souviens, il y a 20 ans, quand il y avait l'affaire Elf, par exemple... Les responsables politiques disaient déjà, voilà, tous ces éléments, ces PV, ces choses qu'on retrouve, ces déclarations de juges d'instruction qu'on retrouve dans le monde, c'est absolument scandaleux, etc. Bah, il n'empêche qu'un certain nombre de suivi dans la presse, un certain nombre d'affaires ont fait progresser un certain nombre de choses liées à la nécessité de combattre la corruption ou de combattre un certain nombre de choses qui vont à l'encontre de la démocratie. Donc je suis très étonné d'entendre dans votre bouche cette attaque de la presse sur les affaires qui est très ancienne, très vieille et qui précisément, à mon avis, ne refonde pas trop la démocratie.
Je n'ai fait qu'une attaque à minima, vous pouvez tout de même le remarquer. Je n'ai pas d'abord dit que c'était ça. J'ai simplement dit que nous étions aujourd'hui dans un jeu politico-médiatique qui, effectivement, me semble n'être pas en mesure de réconcilier les Français avec ce qu'est la chose politique. C'est pour moi le message fondamental d'aujourd'hui. Alors, peut-être faut-il faire une commission d'enquête parlementaire, je ne sais pas à quoi cela aboutirait. Peut-être faut-il soupçonner Pierre, Paul et Jacques d'un complot contre André et Boniface, mais cela ne nous mènera pas très loin. Et d'ailleurs, vous savez comme moi que dans quelques jours, cette information sera relayée par d'autres types d'informations qui seront probablement de même nature. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système démocratique. Et quand je dis ça, croyez-moi, je ne veux pas dire pour autant qu'il faudrait revenir à une situation antérieure, bien entendu, dans laquelle, comment dire, on mette la poussière sur le tapis.
D'autant,
ce n'est pas ce que je
d'autant
veux dire.
Robert Rochefort, que quand même, François Bayrou a été l'un des premiers à critiquer le système Sarkozy, les méthodes de Nicolas Sarkozy, publiquement, en l'accusant de choses très dures. On se rappelle qu'il avait écrit un livre qui s'appelait « Abus de pouvoir ». C'est bizarre cette position que vous avez aujourd'hui. Il y a beaucoup d'affaires autour de Nicolas Sarkozy. François Bayrou était le premier à dénoncer
ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est en même temps une façon, politiquement cette fois-ci, et non pas sur le terrain judiciaire, politiquement de faire un bilan de l'époque Buisson, qui a quand même été une époque importante pour Nicolas Sarkozy. Bien, et alors, que voulez-vous que je vous répète que ce n'est pas notre tasse de thé? C'est tout à fait évident. Maintenant, si vous permettez, juste pour revenir un instant sur ce que j'indiquais tout à l'heure. Prenez par exemple la phrase, fameuse phrase du président de la République, dite à quelques jeunes députés, paraît-il, vous savez, Nicolas Sarkozy, je le surveille.
C'est pas sourcé, ça, c'est étonnant.
Bon. Enfin, non, mais prenez cette phrase.
On peut toujours
prenez
cette phrase.
C'est un édito prenez du JDD.
Non, mais
c'est pas sourcé, encore une fois, je vous dis journalistiquement, pour nous, ça tient pas.
Ah, c'est pas une phrase qui était dans la presse.
Elle est pas sourcée, en tout cas. Mais bon, allez-y, je vous laisse.
Je ne l'ai pas lu dans votre journal. Je ne l'ai pas lu dans votre journal.
Un propos rapporté, on ne peut pas.
Vous l'avez lu dans le Figaro, citant le journal du dimanche.
Il me semble que je l'ai lu aussi dans le journal du dimanche, figurez-vous.
Oui.
Chacun appréciera les canaux, après, ça, c'est pas notre liberté de commenter.
Et donc, ça vous porte à croire qu'il y a une affaire politique là-dedans et que Nicolas Sarkozy est en effet sous la surveillance du pouvoir? C'était la conclusion à laquelle vous vouliez aboutir?
Je ne sais pas. Je crois que, on verra bien. Je pense, par exemple, qu'il est effectivement, quand je disais tout à l'heure que le système politique fonctionne aujourd'hui comme il fonctionnait hier, par rapport à la justice, je veux simplement dire qu'effectivement, je ne vois pas ce qui ferait que Monsieur Valls et Madame Taubira n'aient pas eu le résumé, comment dire, de ces écoutes. Donc ça me paraît très probable. Et c'est en ce sens que je dis que le système fonctionne aujourd'hui comme il fonctionnait hier, avec un jeu de rôle fait évidemment d'énormément d'hypocrisie, avec des ministres qui font semblant de ne pas être au courant de cela. Et je dis tout simplement que je ne suis pas sûr que la démocratie y gagne et que j'appelle à des mœurs différentes. Et de ce point de vue, croyez-moi, je crois être tout à fait en phase avec ce que pense François Bayrou.
Bernard Pellegrin.
Alors dans ce domaine, moi ça m'intéresse, quelles sont les propositions des centristes aujourd'hui pour que la justice fonctionne mieux dans ce pays ?
Non, mais la justice doit être indépendante, la justice doit avoir effectivement la possibilité de faire son travail, ceci n'est pas en cause. Et nos propositions ne visent pas en l'occurrence, encore une fois, le fonctionnement de la justice, elles visent tout simplement le fonctionnement de la démocratie et de la classe politique. Et il est évidemment tout à fait fondamental qu'une classe politique, comment dire, exerçant le pouvoir autrement, soit quelque chose qui se mette en place dans notre pays. Et qu'en tout état de cause, il n'y ait pas, ce que l'on voit encore aujourd'hui, un jeu entre une opposition et une majorité qui, vous voyez bien, font des sortes de tirs dérivés à droite et à gauche pour occuper l'opinion, pour faire ceci, pour faire cela. Je te menace d'une enquête parlementaire, je te dis que c'est une instrumentalisation. Le Premier ministre qui vient expliquer que ce à quoi on assiste depuis quelques jours est l'illustration d'une sorte de moralité de gauche qui serait nouvelle et dont tout ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques jours est l'exemple. Excusez-moi, tout ceci me semble être une vaste, comment dire, orchestration très en deçà de très au-delà de la réalité et pas du tout correspondant à ce dont je crois la société aujourd'hui qui va très mal. Parce que vous pouvez passer des heures à discuter de ce sujet, interroger des responsables politiques pendant des heures sur ces sujets. De quoi nous parlons et de quoi nous ne parlons pas? Nous ne parlons pas d'une société française qui va très mal, à la fois d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique, d'une crise économique qui est loin d'être terminée, de questions de pouvoir d'achat tous les jours. J'aurais aimé, par exemple, que vous me parliez aussi aujourd'hui,
pour terminer, quand
des
même,
retraités qui vont avoir leur pouvoir d'achat qui va diminuer, etc. Tout ceci, c'est l'actualité. Ce n'est pas uniquement cette question,
on en est bien,
ce grand déballage.
On en est bien conscient. Jonathan Boucher-Peterson.
Puis là, voilà, enfin, presque les uns et les autres considèrent être l'actualité. Vous savez que c'est toujours des choses qui sont un tout petit peu subjectives, voire opportunes. C'est normal. Je voulais juste vous interroger sur un point qui me semble important. C'est qu'il y a un certain nombre de lois quand même qui ont été votées depuis le début du quinquennat concernant les sujets de la transparence, qui ont été plutôt, sûrement incomplètes, mais globalement saluées par les ONG spécialistes. Il y a un certain nombre, en revanche, de textes qui nécessitaient de passer au Congrès. Par exemple, une réforme du Conseil supérieur de la magistrature et un certain nombre d'autres textes qui pouvaient améliorer le fonctionnement de la justice. Et j'ai pas le souvenir que les centristes, et notamment l'UDI, aient été, entre guillemets, à ce rendez-vous-là. Et fondamentalement, quand la question a été posée de savoir est-ce qu'au Congrès, vous suivez, vos amis, visiblement, n'ont pas joué le
Alors,
jeu.
Alors, vous me permettrez de vous dire simplement que vous demanderez à mes collègues de l'UDI de vous répondre. À l'époque,
oui, mais
c'était... Demandez-nous de rendre compte de nos actes. L'UDI a sa propre...
Alors, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez... été consulté sur ce que dit Jonathan. Vous avez une position
différente. Qu'il y avait nécessité à aller au Congrès là-dessus de façon plus large, parce que c'est aussi ce côté clanique dans des discussions qui visiblement vont au-delà du clivage politique. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, c'est peut-être technique, mais les parlementaires peuvent peut-être s'accorder là-dessus. Là-dessus, vous avez un regret? Vous dites on aurait dû aller plus loin?
Non, en tout cas, si vous me posez la question en ce qui me concerne, si j'étais parlementaire national, je crois que j'aurais accepté d'aller au Congrès. Mais encore une fois, je suis parlementaire européen, donc interrogez-moi sur mon action de parlementaire européen. C'est plus important, en tout cas pour ce qui est de ma responsabilité et de mes électeurs. Et en plus, ça tombe bien, puisque dans quelques semaines, on va voter sur ce sujet.
On va en parler, Bernard Pellegrin.
Oui, alors je passe vraiment à toute autre chose. Est-ce que la Crimée a été annexée par la Russie aujourd'hui, ce soir, à vos yeux?
En tout cas, je trouve que ce qui se passe est très grave. Et je dois vous avouer que je ne sais pas comment on fait pour l'arrêter. Mais c'est ça la difficulté, parce que vous voyez bien que heure après heure, tout semble s'organiser pour que, effectivement, dans quelques jours, ce pseudo-référendum se passe totalement sous contrôle russe, en Crimée. On ne peut pas dire dans ces conditions que ce référendum sera organisé avec, comment dire, une transparence démocratique. Et là, on est évidemment très très loin des discussions que nous avions il y a quelques instants sur la situation française. Et ceci me préoccupe énormément. Nous avons appris il y a quelques instants, je crois simplement, que les liaisons aériennes sont même interrompues. Donc, je trouve que tout ceci est extrêmement préoccupant. Et vous me permettrez de dire que je mettrai juste un petit bémol sur tous ceux qui disent depuis quelques jours que l'Europe est de nouveau au rendez-vous, que l'Europe est là. Je trouve qu'effectivement, un certain nombre de ministres des Affaires étrangères, dont le ministre français, ont à plusieurs occasions été tout à fait à la hauteur de ce qu'il fallait faire, mais que ça ne remplace pas, comment dire, une Europe qui n'est pas unie sur cette question, qui ne parle pas d'une seule voix, qui n'a pas un porte-parole à la hauteur et qui a même d'ailleurs un certain nombre, ça ne s'exprime pas de façon extrêmement publique, mais un certain nombre de divergences entre les Anglais ici, les Allemands ailleurs. Et ça, je trouve que c'est extrêmement préoccupant parce que vous savez comme moi que pour ce qui est de l'Ukraine en général et de la Crimée à l'intérieur de l'Ukraine, il ne peut pas y avoir de vraie solution sans un dialogue partenarial difficile à établir, mais qui s'établissent entre l'Union européenne d'un côté et évidemment la Russie de l'autre.
Est-ce que c'est un message qu'il faudra faire passer lors de ces prochaines élections européennes dont on parlait
Absolument.
Il y a un instant, qui vont être un enjeu particulièrement important
oui.
pour les centristes?
Quel va être l'enjeu de ces élections européennes? C'est de sortir d'une situation dans laquelle chaque pays européen défend ses intérêts de façon égoïste à une situation dans laquelle les différents pays européens acceptent de travailler ensemble, de parler d'une seule voix, avec un président élu le plus vite possible au suffrage universel et un vrai ministre des Affaires étrangères qui soit capable de parler au nom de la voix des Européens. C'est ça le chantier qui est devant nous pour les 5 ans qui viennent.
C'est le chantier des centristes qui jouent un peu leur crédibilité.
C'est le chantier des centristes et vous verrez que les Européens, puisque c'est la liste, les listes que nous lançons vont s'appeler les Européens. Ce que les Européens, c'est-à-dire les centristes, le MoDem et l'UDI vont proposer, c'est cela. Nous serons les plus Européens de la proposition politique qui sera faite, parce que pour nos enfants...
Quel score vous voulez faire pour être crédible?
Évidemment, le score le plus élevé possible. Et je crois qu'on fera un très bon score. Et je crois qu'effectivement, les Français attendent de nous des propositions différentes, et les Européens.
Merci Robert Rochefort, vice-président du Mouvement démocrate, d'avoir été notre invité ce soir.
Merci à
Jonathan Boucher-Peterson, à Bernard Pellegrin, Audrey Yatoni et Mathias Golshani qui réalisent cette émission.